enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'est votre désir aujourd'hui d'être changé? J'espère que oui, parce que le changement, c'est une bonne chose. On a besoin de changer. Comme j'ai marqué dans vos notes, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que Dieu vous aime tel que vous êtes. Mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Amen. Et on dit souvent aux gens, vous savez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Venez à lui. Et c'est vrai. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut tout changer. Il faut tout laver dans leur vie. Il faut mettre tout en ordre dans leur vie avant de venir à Jésus-Christ. Mais c'est le contraire. Jésus veut qu'on vienne à lui quand notre vie est vraiment toute en désordre. Il veut qu'on s'approche de lui et par la grâce recevoir son salut et être transformé par sa puissance. Amen. Sans Jésus, on peut rien faire pour se changer soi-même. Mais qu'est-ce qu'il faut pas oublier non plus? Que quand on vient à Jésus tel que nous sommes, il nous prend tel que nous sommes, mais puis il nous change. Il nous transforme. Et il nous transforme en son image. Pour que, après avoir été en Jésus-Christ, on va ressembler à Jésus lui-même. Dieu devrait être visible dans votre vie, après avoir marché avec lui. Amen? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer et probablement, je promets jamais, mais probablement terminer la série qu'on a commencée il y a déjà 9 semaines. C'est le 9e message que je fais. D'habitude, les séries ne sont pas si longues que ça. Mais j'avais tellement des choses dans mon cœur concernant comment avoir une vie heureuse. Parce que tout le monde cherche le bonheur, n'est-ce pas vrai? Tout le monde veut être heureux. Personne veut être misérable. Et le monde entier, ils vont dépenser l'argent, le temps et l'énergie pour trouver le bonheur. Mais malheureusement, la plupart des gens cherchent toujours dans les mauvaises places. Mais le bonheur, la vraie vie heureuse se trouve uniquement et seulement en Jésus-Christ. Et on a pris comme texte pour cette série Proverbes chapitre 3. Et on va relire quelques versets à partir de verset 1. Et puis on va finir aujourd'hui avec verset 12. Et on va découvrir encore un autre secret d'une vie heureuse. Est-ce que ça vous intéresse? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Donc ici, nous voyons vraiment plusieurs ingrédients d'une vie heureuse. On voit qu'est-ce que ça prend pour vivre longtemps sur la terre, c'est l'obéissance, n'est-ce pas? On voit qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne réputation, pour avoir la bonne santé, pour vivre dans la prospérité. On a toutes ces choses. Et puis, c'est pas par hasard que Dieu finit ce passage en disant en versets 11 et 12, « Ne méprisez pas la correction de l'Éternel. » Pourquoi? Parce qu'en lisant les versets précédents, qu'est-ce qu'on vient de lire? Souvent, nous allons voir qu'il y a certains domaines de notre vie qui ne sont pas en ordre. Vous êtes d'accord? On va voir quand on lit de comment avoir une longue et heureuse vie, qu'il faut marcher dans la désobéissance. Des fois, on va se rendre compte qu'on a des domaines où on marche dans la désobéissance. N'est-ce pas vrai? Quand on parle de comment avoir une bonne réputation, c'est-à-dire marcher avec fidélité et dans la bonté, des fois on va se rendre compte que des fois je marche pas dans l'amour avec les autres. Quand on parle de comment avoir une vie en bonne santé, ou comment avoir la prospérité, d'honorer le Seigneur avec nos prémices, les prémices de nos revenus, des fois on va se rendre compte que ces choses ne sont pas en ordre dans ma vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à ces vérités? Est-ce qu'on va être défensif? Est-ce qu'on va dire, oh, mais franchement, c'est un peu trop? Ou est-ce qu'on va embrasser ces vérités? La Bible dit clairement, mon fils, ne méprisez pas la correction du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Et Dieu veut qu'on change. Amen? Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que la plupart des êtres humains détestent les changements. Vous êtes d'accord? On aime que les choses restent pareilles parce que c'est moins effrayant. On a moins peur de faire la même chose qu'on a toujours fait. Parce que c'est l'inconnu qui est effrayant, pour nous. N'est-ce pas vrai? Et si vous n'avez jamais fait les choses qu'on vient de lire en verset 1 jusqu'à verset 10, si vous n'avez jamais osé mettre ces choses en pratique, des fois, ça peut vous faire peur. Mais comme on a dit, Dieu vous aime tel que vous êtes, dis ça avec moi. Dieu m'aime tel que je suis, mais il m'aime trop pour me laisser comme ça. Regardez dans vos notes, j'ai mis quelques autres pensées. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous allez toujours avoir ce que vous avez toujours eu. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a quelques-uns qui n'ont pas l'air convaincus. Laisse-moi vous dire encore. Si vous faites toujours qu'est-ce que vous avez toujours fait, vous allez toujours avoir qu'est-ce que vous avez toujours eu. Amen? C'est quoi une bonne définition d'un insensé ou de quelqu'un qui est fou? C'est quelqu'un qui fait sans cesse la même chose, qui répète toujours la même action, en croyant qu'il va avoir des résultats différents. Hein? Et j'ai lu quelque chose cette semaine, et c'est pas un livre chrétien, mais c'est un livre qui parle des principes chrétiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ce livre, Qui a piqué mon fromage? C'est un livre extraordinaire. C'est pas chrétien, mais il y a des principes bibliques qui sont là-dedans, et je pourrais même le conseiller. Mais dans ce petit livre, Qui a piqué mon fromage, c'est l'histoire de deux petits êtres humains qui sont si petits, ils ont la même grandeur que des souris, ok? Et ils habitent dans un labyrinthe, ok? Avec deux autres souris. Donc il y a deux souris et deux hommes qui habitent dans le labyrinthe. Et à chaque jour, ok? Au début de l'histoire, ils ont trouvé une place, ils appelaient ça la gare F. Où se trouvait un cachet de fromage extraordinaire. C'était du bon fromage. Et à tous les jours, les deux petits hommes et les deux petites souris se sont rendus à la gare F pour manger du fromage. Et ils en mangeaient. Et c'était bon. Et à chaque jour, ils rentraient chez eux. Et le lendemain, ils retournaient à la gare F pour manger du fromage. Jour après jour après jour. C'était comme métro, boulot, dodo, hein? Mais il y avait une certaine sécurité qui s'est installée dans leur vie. Toujours du fromage. Oh, la vie est belle. Les petits hommes commencent à prendre du poids même. Ils sont à l'aise. La vie est belle. Sauf qu'un jour, ils arrivent à la gare F juste pour découvrir qu'il n'y a plus de fromage. Qu'est-ce qui arrive? Les deux petits hommes qui ont trouvé qu'il n'y a pas de fromage, ils sont complètement bouleversés. Qu'est-ce que nous allons faire? Je comprends pas. C'est pas juste. Nous ne méritons pas ça. Qui a piqué notre fromage? Tandis qu'ils regardent, les deux petites souris ne sont pas là parce que la journée avant, ils ont commencé à se rendre compte que la qualité de fromage était de moins en moins bon et que c'était de moins en moins abondant. Donc, eux autres, ils savaient qu'il y avait un changement qui s'en venait. Et dès que le fromage est disparu, ils ont pris une décision, on va remettre nos sneaks et on va aller à la recherche, on va retourner dans le labyrinthe et on va trouver un autre cachet de fromage. Et dans pas longtemps, ils ont fait des recherches, des petites souris, et ils ont trouvé du fromage, et ils commencent à mener encore une vie belle. mais toujours avec les sneaks. Hein? Ils arrivent à la gare, ils enlèvent les sneaks, puis les mettent autour du cou, juste au cas où que le fromage commence à baisser encore, ils sont prêts à repartir dans la labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur du changement. Ils ont dit, bon, c'est pas grave, si le fromage n'est plus là, il y a sûrement du meilleur fromage, du nouveau fromage, dans une nouvelle place. Et on y va! Tandis que les hommes, ils étaient là, en train de gratter la tête, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui a piqué notre fromage? Qu'est-ce que nous allons faire? On va juste attendre, et peut-être, le fromage va revenir. Donc, à tous les jours, pendant des semaines, ils retournent chez eux, le soir, et le lendemain, ils rentrent à la gare F, là où c'est vide, il n'y a pas de fromage, nulle part, mais ils attendent, et ils commencent à être eux-mêmes remplis d'amertume. C'est qui a piqué notre fromage? C'est pas juste, nous n'avons pas mérité cela, quelqu'un va payer. On va trouver qui a piqué notre fromage et on va le poursuivre. Est-ce que vous voyez l'image? Les deux souris qui ont moins d'intelligence, on pense, sont en train de manger et vraiment avoir de la bonne bouffe. Tandis que les deux petits hommes, ils se plaignent et ils font toujours la même chose. Ça, c'est faux, n'est-ce pas? Toujours la même chose, en croyant qu'un jour, ça va changer. Ils font toujours la même chose. Savez-vous, ils avaient besoin d'être corrigés. Ils avaient besoin de savoir, non, si vous faites toujours la chose que vous avez toujours fait, vous allez toujours avoir qu'est-ce que vous avez toujours eu. Il faut être prêt à changer. Le changement, c'est une bonne chose, et le nouveau fromage, c'est bien mieux que le vieux. Amen? Combien de vous, vous aimeriez mieux manger du nouveau fromage que de rester dans la gare F où c'est vide et vous allez passer toute votre vie en faisant rien? C'est pourquoi Dieu nous donne cette parole. Mon fils, ne méprisez pas la correction du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il y a du fromage qui vous attend, qui est bien mieux que ce que vous avez jamais goûté. Amen? Et vous en avez besoin. Mais si vous continuez à faire qu'est-ce que vous faites, toujours, vous n'allez jamais trouver le fromage. Qu'est-ce qu'on doit faire, si c'est le cas? Dans ces versets, on va relire encore versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. » Vois-tu, c'est la peur qui fait en sorte que nous ne voulons pas changer. Les deux petits hommes dans le labyrinthe, ils ont dit, j'ai peur, je peux pas, je suis trop vieux pour retourner dans le labyrinthe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me perdre. Jusqu'au moment où ils ont découvert la vérité que c'est bien plus dangereux de rester dans la gare F avec rien. C'est sûr et certain qu'ils vont mourir là. C'est bien mieux de prendre la chance et de courir le risque de rentrer encore de nouveau dans le labyrinthe et de chercher le nouveau fromage. Amen. Même chose avec Dieu. Quand Dieu vous montre une chose à changer dans votre vie, des fois vous avez peur. Je sais pas comment je vais faire. J'ai jamais fait ça avant. J'ai jamais obéi dans ce domaine de ma vie. J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mais laisse-moi vous dire, qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que ça marche? Non! Ça marche pas! Donc c'est bien plus dangereux de rester pareil, comme vous êtes, sans changer, que de courir le risque de rentrer encore dans l'inconnu. Amen? Alléluia. Donc, première chose, numéro un, dans vos notes, trois choses que nous allons voir aujourd'hui. Première chose qu'il faut faire pour avoir une vie heureuse concernant la correction de Dieu, développer une bonne attitude envers la correction. Développer une bonne attitude envers la correction. Il faut voir la correction comme une chose positive et pas comme une chose négative. Amen? Si vous pensez qu'être corrigé égale être méprisé ou être puni même, vous avez tort. Mais si vous voyez la correction comme une chose positive, un moyen que Dieu utilise pour nous amener au cachet où se trouve le meilleur fromage de votre vie, amen, vous allez arrêter de mépriser la correction et à place, vous allez aimer la correction, vous allez même chercher la correction. Amen. Ça, c'est la différence entre une personne qui est mature et immature. Une personne qui manque de la maturité, il va toujours être sur le défensif quand il est corrigé. Il va toujours prendre les choses personnelles. Il va être offensé quand quelqu'un ou quand la parole de Dieu le corrige. N'est-ce pas vrai? Mais une personne qui est mature, dès qu'une correction vient, il va dire, gloire à Dieu, si j'avais su avant, j'aurais pris une autre direction, mais maintenant je sais, je vais prendre la bonne route. Amen? Tout le monde dit, j'aime la correction. Même si vous le dites par la foi, dites-le quand même. J'aime la correction. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une bonne attitude envers la correction? Regardons plusieurs choses. Premièrement, nous avons tous besoin de la correction. Savez-vous que vous avez besoin de la correction? C'est comme dans la vie naturelle, la Bible en parle beaucoup concernant les enfants, et nous sommes les enfants de Dieu. Proverbe 22, 15 dit, « Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. » Est-ce que vous avez remarqué que même en tant qu'enfants de Dieu, des fois nous aimons ce qui est déraisonnable? Ou est-ce que je suis la seule personne qui a eu? Et au moins, il y a deux personnes. Vous savez, si on laisse un enfant dans le naturel faire qu'est-ce qu'il veut faire, il va faire qu'est-ce qui est déraisonnable. Il va manger la crème glacée 24 heures sur 24. Amen. Ma fille, elle est quelqu'un qui aime jouer dehors. Et si je la laisserais, elle irait toute seule prendre son petit vélo et se promènerait dans la rue. C'est dangereux, vous êtes d'accord? Je peux pas laisser ma fille faire ça. C'est déraisonnable. Les enfants ont une tendance à faire les choses qui ne sont pas correctes. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on a besoin de les corriger. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Et ça, c'est la même chose pour nous. Les punitions, les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Si on laisse un enfant à lui-même, sans jamais le corriger, c'est normal. C'est pas parce que l'enfant est pire que les autres. Mais c'est normal. La Bible dit que nous sommes nés avec une nature pécheresse et les enfants ont une tendance de faire le mal. C'est automatique. Est-ce qu'il y a des parents qui ont remarqué que c'est pas nécessaire d'enseigner à vos enfants comment désobéir? Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu besoin de montrer à un de mes garçons comment se chicaner avec son frère. C'est venu tout seul. J'ai jamais eu besoin de montrer à mon enfant comment faire quelque chose de pas correct. Je sais pas pourquoi, mais c'est venu tout seul. Pourquoi? Parce que tout le monde est comme ça. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais nous avons quand même une intelligence qui a besoin d'être renouvelée. Et si Dieu nous laisse aller juste à nous-mêmes, un enfant laissé à lui-même fait la honte de sa mère et de son Père céleste aussi. Un enfant de Dieu laissé à lui-même va faire le contraire de ce que Dieu veut qu'il fasse. N'est-ce pas vrai? Alléluia! C'est pourquoi il faut dire, j'aime la correction! Une autre chose concernant une bonne attitude envers la correction est pour notre bien. C'est pas pour nous faire mal, c'est pour nous faire du bien, c'est pour nous donner du nouveau fromage. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Aimeriez-vous mieux marcher sur le chemin de la vie que le chemin de la mort? La Bible est claire, il y a un sentier qui sent bon en homme, mais ça mène à la mort. Et aujourd'hui, on voit, et en tant que pasteur Tanya et moi, on en a parlé juste cette semaine, combien ça nous fait mal de voir les enfants de Dieu, et surtout les jeunes, les enfants, les ados, les personnes jeunes surtout, qui ont toute une vie devant eux, de voir ces personnes qui ont, eux, l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Et de savoir qu'il y a une différence entre le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Et voir autour d'eux un paquet des mondes et des vies qui sont détruites. Vous savez de quoi je parle? On a des exemples par des milliers des vies qui ont été détruites par les personnes qui ont eu des relations sexuelles hors le mariage. Par ceux qui commencent à faire la drogue, l'alcool, toutes ces affaires-là. Et vous voyez, par des centaines, il y a même des enfants de Dieu qui font quand même la même chose. C'est triste, n'est-ce pas? Mais Dieu veut que nous marchions sur le chemin de la vie. Il veut qu'on marche avec lui, parce qu'en lui se trouve le bonheur. C'est en lui où se trouve le bon fromage. Amen? C'est en lui. Donc, la correction, ce n'est pas une chose négative. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous priver des choses. Moi, j'ai eu cette attitude. À l'âge de 15 ans, je me suis dit, je ne veux pas rater mon affaire, je ne veux pas passer à côté du bonheur. Le monde était tellement attirant. Waouh, ça a l'air de fun. Je peux aller faire des parties avec tout le monde et manœuvrer avec tout le monde et ça serait de fun. Je ne veux pas manquer ça. Quel mensonge! Hein? J'aurais dû écouter maman. J'aurais dû écouter mon Père Céleste aussi. Et heureusement, mon période de rébellion était de courte durée. Et même à l'âge de 16 ans, presque 17 ans, le Seigneur a touché mon cœur par sa grâce. Il m'a fait sortir de la boue. Amen. Gloire à Dieu. Je t'ai épargné de bien de misère. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. S'égare de quoi? Il s'égare du chemin de la vie. On a deux choix, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Vie ou mort? Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Choisissez le bon fromage. Changez. Faites quelque chose que vous n'avez pas fait avant. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc le choix est à nous encore. On peut choisir la pauvreté et la honte, ou on peut choisir être honoré. C'est la correction qui nous mène à la vie et à une vie heureuse. Amen. Celui, voici une chose qui est vraiment claire et directe. La Bible dit, celui qui haït la correction est stupide. Pasteur, tu ne devrais pas dire cela. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Proverbe 12 ans qui le dit. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. Et Dieu est clair, n'est-ce pas? Hein? Il ne joue pas. Et c'est clair. Si tu veux vivre, laisse-toi corriger, aime la correction. Tu devrais avoir hâte d'être corrigé. C'est comme des personnes, hein, les joueurs de golf, par exemple. Et j'ai entendu des personnes qui enseignaient le golf. Des fois, ils arrivaient avec des étudiants et ils avaient vraiment mal appris le golf. La main n'était pas à la bonne place, mais ils avaient l'habitude de le faire d'une telle façon. Et l'instructeur essayait de le corriger en disant, tu sais, la meilleure chose à faire, c'est de placer tes mains comme ça. Mais non, 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 mais moi, je suis habitué, je l'ai toujours fait comme ça. Si tu fais qu'est-ce que tu as toujours fait, tu vas toujours avoir qu'est-ce que tu as toujours eu. Un mauvais match de golf. Hein? Ou une mauvaise vie, une vie malheureuse. N'est-ce pas vrai? Il faut se laisser corriger. Et quelqu'un qui est sage, s'il va payer pour les cours de golf, il va dire, OK, montre-moi qu'est-ce que j'ai à changer. Je paye cher pour ces instructions. Et n'oublie pas de me dire une seule chose. Si mes pieds ne sont pas bien placés, si mes mains ne sont pas bien placées, si je ne prends pas le bon bâton, quoi que ce soit, corrige-moi, montre-moi comment le faire pour réussir. Et ça devrait être notre attitude. Quand on vient à Dieu, dans la parole, à chaque fois qu'on ouvre notre Bible, à chaque fois qu'on vient à l'église, on devrait dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que j'ai à changer. Montre-moi où j'ai besoin d'être transformé, les choses qui ne vont pas dans ma vie. Montre-moi, parce que j'aime la correction. Ouh, je ne suis pas convaincu. Tout le monde dit, j'aime la correction, avec un sourire. Alléluia. Alléluia. Celui qui aime la correction aime la science. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin. Celui qui déteste être repris périra. Si vous détestez être repris, vous allez périr. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Qui refuse d'être éduqué néglige sa propre vie. Mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère. Amen? Vous ne voulez pas être comme c'est marqué en Proverbe 5, 12. Ça parle d'une personne qui n'a pas écouté l'instruction de son père concernant l'adultère. Si tu lis le contexte de Proverbe 5, c'est une personne qui a quand même commis l'adultère malgré les instructions, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur as-tu dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, de ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. » C'est fort, n'est-ce pas? Donc, première chose, comme j'ai dit, numéro un, c'était d'avoir une bonne attitude envers la correction. Deuxième chose qu'on voit dans ce verset, encore notre texte, c'était versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. » Comprenez, numéro 2, dans vos notes, comprenez pourquoi Dieu veut nous corriger. Si vous êtes convaincu que Dieu vous aime, vous allez aimer la correction. N'est-ce pas vrai? Vous allez avoir hâte d'être corrigé. En fait, Jésus l'a dit, « Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. » La correction est pour amener un changement. Mais juste une petite chose que j'aimerais ouvrir, une petite parenthèse. Jésus a dit, « Je châtie ou je corrige ce que j'aime. » Comment est-ce que Jésus le fait? Lisez en Apocalypse, surtout les premiers quelques chapitres de l'Apocalypse, et vous allez voir que Jésus a repris les églises. Il y avait 7 églises en Asie, et Jésus a donné des reproches. Mais à chaque fois qu'il a donné une reproche, avant de reprendre l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a félicités pour quelque chose qui faisait du bien. Donc la correction, quand on corrige, comme avec un enfant, si on ne fait que corriger sans jamais démontrer de l'amour, ça ne marche pas. Il faut lui dire, tu fais telle chose qui est bien, je suis fier de toi. C'est comme, je vais le dire, ma petite fille, elle est gentille, mais elle a un caractère aussi. Hein? Elle a du caractère et elle peut faire des bêtises. Et ça serait facile de dire, oh, tu n'es pas une bonne fille. Mais il faut qu'on fasse attention. Et qu'est-ce que je veux me dire, c'est que, tu sais, toi, tu es vraiment une bonne fille, mais actuellement, tu n'agis pas comme une bonne fille. Amen? Et il y a juste la semaine passée, Tania a dit à Lorraine, « Lorraine, tu sais, tu es une bonne fille. » Elle a dit, « Merci, maman. » Ça lui a fait du bien, dans son cœur. Oui, c'est ça, elle vient. Et si tu as vu, ses cheveux sont plus courts aujourd'hui, c'est parce qu'elle a voulu jouer aux coiffeuses hier matin. On était obligés de la faire couper. Donc, elle a son petit caractère. Mais vois-tu, il faut toujours donner quelque chose de positif avec la correction. Amen? Et Dieu, il n'est pas contre vous, il est pour vous. Alléluia! Dieu vous aime! La Bible dit en Proverbe 13, 24, « Celui qui ménage sa verge haït son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Un père, une mère ou un Dieu qui ne corrige pas ses enfants, haït ses enfants. C'est vrai? Si j'haïs mon fils, je vais le laisser faire qu'est-ce qu'il veut faire, quand il veut le faire, comment il veut le faire. Parce que je sais que les enfants, laissés à eux-mêmes, vont faire des choses déraisonnables. Amen? Alléluia! Alléluia! Tout le monde dit « J'aime la correction! » Alléluia! Hébreux chapitre 12. Regardez ça. Hein? Hébreux 12, 5. C'est un bon verset. « Et vous, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'on père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Est-ce que vous voyez? Si Dieu ne vous corrige jamais, c'est parce que de toute évidence, vous n'êtes pas vraiment un de ses enfants. Mais si vous êtes un de ses enfants, il vous aime, il va vous corriger. Pourquoi? Pour votre bien. Pour vous montrer le chemin vers le nouveau fromage. aime. Il nous aime. Mais là, il faut faire attention. Parce qu'on lit ce mot « châtie » et des fois, ça va conjurer des images d'un père cruel qui va battre ses enfants. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Il faut savoir et avoir une bonne attitude envers la correction. Numéro 2, comprenez pourquoi Dieu veut nous corriger. C'est parce qu'il nous aime. Et numéro 3, sachez comment Dieu va nous corriger. Comment est-ce qu'il va le faire? Et c'est clair. Mon fils, ne méprisez pas la correction du Seigneur. Et on a vu, il châtie, il corrige ceux qu'il aime. Comment? Comme un père châtie ou corrige son fils. Donc, si Dieu va nous corriger, il va nous corriger comment? Comme un père qui corrige son enfant. Et pas comme un père cruel, parce qu'il y a quelques-uns de vous, peut-être vous avez eu des pères qui ont vraiment abusé, qui ont été vraiment cruels. La Bible n'en parle pas. De la cruauté envers les enfants. Vous êtes d'accord? Les corriger, c'est une chose. Hein? Les châtier, c'est une chose. Les torturer, c'est une autre. Amen? Et c'est important que je dise cela parce qu'il y a des personnes religieuses qui vont vous enseigner que s'il y a quelque chose de méchant qui vous arrive, votre fils est tué dans un accident d'auto, c'est parce que Dieu est en train de vous châtier. Est-ce que Dieu fait ça? Non. Est-ce que je ferais ça à mon fils? Si mon fils vient me voir et ma fille, par exemple, ma fille qui vient de se couper les cheveux, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire quelque chose de cruel à ma fille. Je vais pas arracher tous ses cheveux. Je vais la corriger. Je vais faire sûr et certain qu'elle comprenne que c'est pas correct qu'est-ce qu'elle a fait. Et il y a différents moyens que la Bible en parle. Amen. D'utiliser pour corriger un enfant. Et c'est une chose qui est sérieuse et c'est important. On ne veut pas parler trop de ça aujourd'hui parce qu'on ne parle pas forcément de la relation entre parents et enfants, mais entre Dieu et nous. Comment est-ce que Dieu nous corrige? Ici, en verset, en Éphésiens 6, 4, il dit, « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. » Tout le monde dit « corrigeant ». Et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, vois-tu, le mot châtier, des fois, les personnes vont penser, ça veut dire Dieu va mettre un cancer sous nous, il va mettre une maladie, il va nous donner un tumeur, il va nous faire périr dans un accident d'auto, il va nous torturer, faire des choses cruelles pour qu'on puisse apprendre une leçon. Ça, c'est pas comme un père va châtier son enfant. Ici, le mot châtier, en grec, en fait, il y a deux mots pour châtier dans le Nouveau Testament. Et c'est bien important. Un de ces mots qui est utilisé dans les versets comme, je vais juste vous donner des références, vous pouvez les écrire. Par exemple, en Matthieu 25, 46 et 1 Jean 4, 18. En Matthieu 25, ça parle de ceux qui vont être châtiés à l'enfer. Ça, c'est vraiment une punition éternelle. 1 Jean 4, 18 dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour parfait de Dieu bannit la crainte, car la crainte parle d'un châtiment. Okay? C'est le même mot grec. Donc, vois-tu, il y a un châtiment qui est vraiment négatif. Ceux qui sont jugés, ceux qui n'ont pas d'espoir, vont être châtiés éternellement. Et ça, c'est vraiment pas une chose qui est vraiment beau ni positive. Vous êtes d'accord? Mais quand la Bible dit qu'en Hébreux 12, qu'il châtie le fils qu'il aime, ça, c'est le même mot qui est utilisé en Éphésiens 6 qu'on vient de lire, où c'est marqué Père, élevez vos enfants en les corrigeant. Donc, le mot châtier en Hébreux 10 ou 12, je veux dire, c'est plutôt correction, plus que même punition. Amen? C'est correction, instruction. Dieu corrige et il instruit. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des punitions? Oui, mais ce n'est pas des punitions cruelles. Amen? C'est bien important que je le dise. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous corrige? Comment est-ce qu'il peut nous châtier? Trois choses. Il nous corrige par sa parole. Première chose qu'il fait, il nous corrige par sa parole. Tout le monde dit sa parole. Verset 15 de Timothée 3 dit, « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute Écriture est inspirée de Dieu. » Est utile. Pourquoi? Pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, le mot châtier, qui est traduit châtier en hébreu 12, c'est le même mot qui est utilisé ici, où la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et c'est bon pour instruire dans la justice, pour corriger. C'est la même chose. Donc, voyez-vous, la façon primordiale par laquelle Dieu va nous corriger, c'est avec sa parole. Et si vous acceptez la Bible telle qu'elle est, la parole inspirée de Dieu, et vous vous laissez corriger par elle, ça va changer votre vie et ça va vous amener sur le chemin de la vie vers le nouveau fromage. Amen? Mais si vous rejetez, vous méprisez la parole, si vous dites, oui, oui, ça c'était bon pour eux, mais on est dans l'an 2003, les choses ont bien changé aujourd'hui, ça ne s'applique plus à moi ni à mon corps. Si vous avez cette attitude, vous allez vous écarter du chemin de la vie, vous allez vous trouver dans la misère. Amen? Donc, première chose qu'on fait, on corrige avec nos paroles. Même chose avec nos enfants, première chose qu'on fait, on les apprend à reconnaître notre voix et à obéir à notre voix. Ça, c'est la meilleure chose. Parce que s'ils obéissent à ma voix, je n'ai pas besoin de faire autre chose. S'ils n'écoutent pas ma voix, des fois, je suis obligé de faire autre chose. Amen? Alléluia! Avec amour, toujours. Ils nous corrigent aussi à travers les autres. Et surtout, on peut dire à travers les autres qui sont en autorité. Faites attention, des fois, on prend ça sous soi-même de corriger tous les autres dans notre entourage. Si vous n'avez pas l'autorité pour le faire, faites-le pas. Amen? Qui êtes-vous pour juger le serviteur d'un autre? Si Dieu vous a placé en autorité, vous avez le droit. Si la personne vous a donné le droit, par exemple, un père a toujours le droit de parler et de corriger son fils. C'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Amen? Les policiers ont le droit de m'arrêter sur la route. Mais vous, vous n'avez pas le droit, hein? Mon voisin à côté ne peut pas m'arrêter sur la route en disant, « Hey, je pense que tu as dépassé la vitesse, la limite de vitesse, je vais te donner une amende. » Est-ce qu'il a l'autorité pour faire ça? Non. Donc, si vous avez l'autorité pour corriger quelqu'un, vous pouvez. Ou si la personne, de son propre gré, vous a dit, je veux être redevable envers vous. Si vous voyez dans ma vie, vous avez une bonne amitié avec la personne, si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je veux que vous me le dites. Amen? C'est bon. À travers les autres, Dieu peut. Et des fois, c'est un des rôles du pasteur. C'est peut-être le rôle qu'on aime le moins. Parce qu'on n'aime pas corriger, on aime mieux encourager. Mais si je sais que la correction va vous amener au nouveau fromage, je peux le faire avec joie. Amen? Alléluia! Le verset qui est là, je te recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Je ne veux pas être un pasteur qui va juste dire, « Oh, qu'est-ce que tu veux entendre aujourd'hui? C'est quel sermon que tu veux que je prêche? Oh, je ne veux pas dire quelque chose qui peut vous offusquer ou qui peut vous frustrer dans votre vie. Oh, je ne peux pas faire ça. Un jour, je vais rendre compte à Dieu. Amen. » Il faut que je donne les légumes à mes enfants aussi. Et à l'église, il faut que je dise la vérité. Bon exemple, la semaine prochaine, j'avais besoin de prêcher sur Proverbes 3, 9 et 10 sur l'importance d'honorer le Seigneur avec les prémices de vos revenus. Ce n'est pas toujours évident pour un pasteur de prêcher tout un message là-dessus. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a bien des gens qui ont des idées. Oh, mais il y a des autres motivations là. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Amen. Et il faut qu'on dise la vérité. Et Dieu, il veut nous corriger. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tout le monde dit, j'aime la correction. Il nous corrige en nous laissant vivre les conséquences de nos actions. Comme je dis, la première chose qu'il fait, il va nous parler. Mais si, quand Dieu nous parle, on n'écoute pas, il va nous laisser faire ce que nous voulons faire. Savez-vous que nous sommes les libres arbitres? Nous ne sommes pas des robots dans le royaume de Dieu. On ne dit pas, « Oui, papa, je vais le faire. Je vais à l'église. Je vais à l'église ce matin. Je donne une offrande. Je marche dans l'amour avec ma femme. » Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Il nous dit, « Aimez votre femme. » Il dit, « N'abandonnez pas votre assemblée. » Il dit, « Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. » Et là, c'est à nous de choisir, de dire, « Est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on ne va pas le faire? » Si on aime la correction, on va trouver le chemin de la vie. Si on méprise la correction, on va périr. Amen? Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la force. Si notre cœur est bien disposé, on peut dire, « Seigneur, je veux, mais mon esprit est voulant, mais ma chair est faible. » Est-ce que vous avez vécu ça des fois? « Oh, je veux faire le bien, Seigneur, mais j'ai de la difficulté. » Soyez honnête avec lui. Il va vous donner la force nécessaire pour le faire. Amen. Alléluia. Dieu est pour vous. Il n'est pas contre vous. Mais si on n'écoute pas la parole, Dieu va nous laisser faire qu'est-ce qu'on veut. Il va nous laisser prendre notre décision. Comme il a dit, « Je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. » Mais si on choisit la mort, comme les enfants d'Israël ont choisi d'adorer d'autres idoles, Dieu les a laissés vivre les conséquences de leur décision. Ils ont été capturés, emprisonnés et amenés captifs en Babylone. N'est-ce pas vrai? Et est-ce que c'est parce que Dieu les détestait? Non! Dieu a tout simplement dit au début, « Faites pas ça, parce que si vous faites cela, vous allez être expulsés du pays de la promesse. Mais si vous marchez en obéissance, vous allez jouir, vous allez manger les meilleures délices du pays. Les meilleures productions du pays vont être à vous pour toujours. Vous serez toujours dans ce pays. Mais si vous marchez pas droit, si vous marchez selon les autres dieux, vous allez tout perdre. » Je paraphrase. Et quand ils ont pris une décision de ne pas se laisser corriger par Dieu, ils sont allés en captivité. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Mes enfants, des fois, on a besoin de les laisser subir des conséquences. Si un enfant n'écoute pas, des fois, j'ai besoin de le prendre et de le mettre dans une chaise. Il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour, physiquement, on peut les forcer, quand ils sont tout petits, on peut les forcer de faire qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. N'est-ce pas vrai? Un petit enfant qui veut aller jouer dans la rue, on peut prendre sa main et dire « Non, tu ne vas pas. » Mais à un moment donné, quand ils sont rendus à 15, 16, 17 ans, on ne peut plus dire « Oh non, tu ne vas pas dans la rue. » Des fois, il faut dire « Bon, tu as pris une décision, tu vas vivre les conséquences et j'espère que tu vas te repentir bientôt. » N'est-ce pas vrai? Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Des fois, surtout au début, par sa grâce, il nous protège de bien des choses. Mais à un moment donné, si on résiste, il va nous laisser aller parce que c'est notre choix. Et ce n'est pas Dieu qui va nous visiter avec le malheur. C'est le diable, le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On n'est plus sous la protection de Dieu. La Bible parle de cela ici et en verset 1 Timothée 1, 20. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Ça parle des personnes qui ont fait naufrage de leur foi, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. En Corinthiens 5, 5 dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est pas Dieu qui va nous visiter avec le malheur. Mais si une personne est révoltée et rebelle et méprise la correction, des fois cette personne va être livrée à Satan. C'est-à-dire que Dieu dit, « Bon, tu veux sortir de ma protection? Allez-y. » Le fils prodigue, vous vous rappelez de l'histoire? Il a dû manger avec les porcs, les cochons, avant de revenir à ses bons sens. C'est ça que Dieu veut? Est-ce que le père veut voir ses enfants manger avec les cochons? Jamais. Il nous aime. Mais si une personne est incorrigeable, on va aller manger avec les porcs des fois avant de revenir à notre bon sens. Et ce n'est pas Dieu qui envoie le malheur. C'est Satan qui est toujours prêt à sauter sur nous. On n'a pas besoin de lui demander non plus. Il est là, il veut nous avoir. Et dès qu'une personne, à un moment donné, dit non, 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 non à la parole de Dieu, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux faire ma chose, je veux faire comme je veux le faire, tu dis ok, fais-le. Mais la personne devient une cible non protégée par Dieu. Amen. Donc, j'aime mieux écouter la parole. J'aime mieux dire, ok, papa, tu vas parler? Me voici. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Montre-moi les choses que j'ai à changer. J'aime la correction parce que j'aime le chemin de la vie et parce que j'aime le nouveau fromage. Amen. Hallelujah. On va prier ce matin. Si Tania peut venir. Hallelujah. Pendant qu'elle vient, on va juste finir en lisant Hébreux 12, 9, qui dit « Rappelons-nous nos pères terrestres, ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. » Voulez-vous recevoir la vie? Donc, soumettez-vous à votre Père céleste. « Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien. » Tu m'as dit, c'est pour mon bien. « Afin que nous ayons part à sa sainteté. » Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de la joie. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on lit quelque chose dans la Bible et on sait que notre vie n'est pas en ordre, ça nous rend triste des fois. Mais, plus tard, ceux qui ont reçu, c'est conditionnel, n'est-ce pas? Ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. La paix associée à une vie juste. Si vous voulez, le nouveau fromage, toute la bonté de Dieu, toutes les choses dont vous avez besoin et que vous désirez, aimez la correction. Mon fils, ne méprisez pas la correction du Seigneur. Hallelujah. Ne méprisez pas. Hallelujah. Ne t'effraie pas de ces châtiments, car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père l'enfant qui chérit. Père, nous sommes tes enfants chéris. Tu nous aimes. Apprends-nous, Seigneur, à aimer l'instruction, à aimer la correction, avec un cœur humble. Moi-même d'abord, Seigneur, que je sois le premier, Seigneur. Montre-moi, sonde mon cœur. Seigneur, on a tous fait des routes avec toi, mais on a tous des routes à faire. Je ne veux pas, Seigneur, rester comme je suis. Je veux être transformé, Seigneur. Je me soumets à ta parole. Corrige-moi. Montre-moi les choses qui ne sont pas en ordre et que j'ai besoin de changer avec ton aide. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière pour moi-même, pour ma famille, pour chaque membre de cette Église, Seigneur. Que nous soyons des hommes, des femmes qui sont à l'écoute de ta voix. Nous écoutons, nous nous soumettons à ta parole, Seigneur, à tes instructions. Merci, Seigneur Jésus. Montre-nous. Je prenais une minute, sondez votre cœur. Moi, je vais sonder mon cœur. Je vais juste m'asseoir ici. On va juste sonder notre cœur pour une minute ce matin. Alléluia, merci, Père Seigneur Jésus. Consale, merci, Seigneur, merci. Je crois que le Seigneur va nous montrer les choses, les domaines où on a besoin de nous soumettre à lui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia. Ça fait longtemps que j'ai écrit ceci et je sais que c'est pour ce matin. J'ai ressenti l'Esprit me demander de le lire. Consolez mon peuple. Faites revenir mon peuple. Apprenez-lui la délivrance. Chaque point en cadence. Faites revenir mon peuple. prévenu mon peuple. Par mes consignes de délivrance, dans mon royaume, rien n'est par chance. C'est l'heure de prévenance. Par des vases appelés, ces vases sont préparés pour accomplir des œuvres préparées. Le tout s'accomplira dans la sainteté. C'est ma volonté. Dans l'esprit, il faut les appeler. C'est urgent d'intercéder. Mon corps doit se lever. Mon corps doit marcher. Car à cela il est appelé, lieutenant et soldat, partout appelé par mon esprit d'entre les morts, va bientôt se lever. C'est le but ultime du désir de notre Père.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.